Je vais présenter maintenant notre conférencier du jour. Donc, il s'agit de Jacques Rupnik, qui va nous parler l'Europe hors et dans l'Union européenne. Et en fait, le sous-titre, puisque nous proposons un thème à chaque conférencier et il s'installe dedans comme il l'entend, le sous-titre, c'est la nouvelle carte de l'Europe. Alors, Jacques Rupnik est né en 1950 à Prague. Il est diplômé de russe de l'Institut national des langues orientales, du cycle supérieur de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a un Master of Arts en études soviétiques de Harvard University. Et il est docteur en histoire de l'Université Paris 1. Son parcours, il a été d'abord chercheur associé à Harvard University, au service Russian Research Center. Il a été spécialiste de l'Europe de l'Est pour la BBC, de 1977 à 82. De 82 à 96, où il y est toujours, et il est directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, au Centre d'études et de recherche internationale. Il a été aussi conseiller auprès du président Václav Havel de 90 à 92. Il est depuis 99 professeur au Collège d'Europe à Bruges et tout en étant directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale, la Fondation nationale des sciences politiques. Ses spécialités, c'est comme vous l'aurez deviné, l'Europe centrale et orientale. Alors ces publications, encore une fois, vous pouvez les consulter de plus en détail et plus à loisir sur le site de la mission. Il a écrit aux éditions Odile Jacob, et c'est maintenant en collection de poche au Point Seuil, L'autre Europe, crise et fin du communisme, 1993. Il a dirigé Le déchirement des nations, Paris, Le Seuil, 1995, De Sarajevo à Sarajevo, L'échec yougoslave, 1992, dans la collection du Série, Les Balkans, paysage après la bataille, Bruxelles, édition complexe, 1996. Il a écrit en collaboration L'Union européenne, ouverture à l'Est, vous voyez, Paris PUF 1994, Le nouveau continent, Paris Kalman-Lévin 1991. La publication la plus récente à laquelle il a participé, c'est le rapport de la Commission internationale indépendante sur le Kosovo, Kosovo, Report of the Independent International Commission, Oxford University Press, l'an 2000. Voilà, donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes pour parler de la nouvelle carte de l'Europe. Et ensuite, vous répondrez à ces questions.
Merci pour votre aimable introduction. Merci d'avoir, quelle mémoire, évoqué que j'avais un diplôme dans une discipline qui n'existe plus, à savoir le Soviet Studies. Ça me fournit une excellente introduction à notre sujet qui est justement la disparition, pas seulement des Soviet Studies, ce qui serait un incident mineur, mais du monde soviétique en tant que tel, et à partir de là, une réflexion sur le nouveau paysage européen, sur la nouvelle Europe qui se dessine, la nouvelle carte de l'Europe. Je pense qu'on peut faire au départ un premier constat, c'est que l'effondrement du système communiste est venu de façon très soudaine, comme une sorte de divine surprise à laquelle les Occidentaux n'ont pas tellement contribué. Le système a implosé, s'est effondré de l'intérieur, et la soudaineté des événements, vous vous souvenez de la réaction en chaîne qui a balayé le système communiste en quelques mois dans l'Europe du centre-est, le fameux slogan « Pologne 10 ans, Hongrie 10 mois, RDA 10 semaines, Tchécoslovaquie 10 jours hein, », c'était un des panneaux affichés par les étudiants pragois pendant la révolution de velours. On aurait pu ajouter ensuite Roumanie 10 heures et Albanie 10 minutes. L'extraordinaire accélération de l'histoire à l'automne 89 a donné l'impression que la disparition de l'Empire soviétique était un événement. C'était très pratique, ça avait un début, la chute du mur de Berlin, en novembre 89, et ça avait une fin avec la disparition de l'Union soviétique en décembre 91. Nous avions donc une nouvelle donne européenne qui était essentiellement interprétée comme un événement. Or, nous savons aujourd'hui que cette vision trompeuse était inadéquate à plusieurs égards et que nous sommes aujourd'hui encore dans la gestion d'un processus de recomposition qui est en cours et qui prendra des années et des décennies. La disparition de l'Empire romain ou de l'Empire ottoman a mis à peu près 2 siècles. C'eût été trop beau si la disparition de l'Empire soviétique n'avait pris que 2 ans. Donc, il faut interpréter cette disparition de l'Empire comme un processus qui a commencé bien avant 89. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, vous le connaissez aussi bien que moi, mais 56, 68, 80 avec Solidarność, tout ce processus d'érosion de l'Empire de l'intérieur, en particulier à sa périphérie occidentale. Et puis, bien entendu, c'est un processus qui ne se termine pas avec la chute du mur ni avec la disparition de l'Union soviétique. C'est un processus qui est encore en cours. Et nous ne pouvons qu'en décerner un certain nombre d'éléments et essayer de réfléchir à la nouvelle carte de l'Europe à partir de ces quelques éléments que je vais essayer d'aborder. Deuxième remarque introductive, c'est que s'il est peu contestable que le centre de gravité géopolitique du continent se déplace vers l'Est, de l'Ouest vers l'Est, vers le centre de l'Europe, alors je ne sais pas où situer ce centre, certains le situent à Berlin avec un peu d'inquiétude dans la voix, d'autres comme moi préféraient que ce soit Prague, d'autres encore, mais ce n'est plus tellement à la mode, parlaient de Vienne, capitale de l'Europe centrale. Ce n'est pas très important où situer, mais on voit ce déplacement du centre de gravité géopolitique du continent vers l'Est et parallèlement le déplacement du centre de gravité institutionnel du continent vers l'Ouest, c'est-à-dire plus de pacte de Varsovie, plus de Comecon, il reste l'Union européenne et l'OTAN. Et c'est donc dans cette tension, pour ne pas dire cette contradiction, entre le déplacement du centre de gravité géopolitique vers l'Est et le déplacement du centre de gravité institutionnel vers l'Ouest que réside la problématique européenne aujourd'hui. La question de l'élargissement de l'Union européenne ou de l'OTAN n'est qu'un élément, mais un élément très important de cette redéfinition, d'où la question formulée par certains des pays candidats, l'Europe centrale est-elle la question centrale de l'Europe? Ça, c'est une façon de poser la question. C'est là qu'il faudra surmonter la contradiction que je viens de mentionner. D'autres diront la formule est belle, mais la vraie question de l'Europe dans les années 90, ça a été la question des Balkans. C'est là que l'Europe s'est impliquée, c'est là qu'elle est intervenue et c'est là que le sont les menaces ou les défis. Et puis d'autres encore voient dans le rapport avec la Russie la véritable clé de l'architecture future. Mais ces deux questions, à la fois la disparition de l'Empire, non pas comme événement, mais comme processus, et d'autre part la solution de ce dilemme de la géopolitique et de l'intégration européenne, me fournissent un peu les deux pistes que je voudrais explorer avec vous. D'abord, réfléchir à la grille de lecture pour comprendre cette nouvelle carte de l'Europe en gestation et puis s'interroger avec vous sur le rôle et de l'Union européenne, quel type de défi cette nouvelle donne à l'Est pose-t-elle à l'Union européenne et c'est peut-être la partie qui débouche le plus sur des questions d'actualité. Alors, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur le fait que des clichés ou des stéréotypes anciens, mais aussi des stéréotypes récents, doivent être écartés d'emblée. Les stéréotypes anciens, vous vous souvenez de la formule de Milan Kundera qui disait « on nous parle », c'était dans les années 80, au début des années 80, « on nous parle des démocraties populaires d'Europe de l'Est, triple mensonge, ce ne sont pas des démocraties, ce sont des dictatures, ce sont des régimes très antipopulaires, et ils ne sont même pas en Europe de l'Est, ils sont en Europe centrale. Et donc, il y avait là une première réaffirmation d'une spécificité centre-européenne, historique, culturelle, en particulier. Kundera parlait d'un Occident kidnappé, hein, qui culturellement appartenait à l'Ouest, politiquement à l'Est et géographiquement au centre. Et bien entendu, la question qui se posait après 89, comment cette Europe centrale peut-elle réconcilier enfin sa culture, sa politique et sa géographie? Voilà le défi, voilà la question telle qu'elle était formulée en Europe centrale. Mais il y a un autre cliché, surtout en vigueur en Occident après 89, celui du post-communisme. On parle de l'Europe post-communiste comme si c'était un ensemble. De même qu'on parlait de l'Europe de l'Est ou du bloc soviétique, on parle de l'Europe post-communiste. Or, 10 ans après, ou pour être précis, 11 ans après la chute du mur, le mot post-communisme n'a plus tellement de pertinence pour comprendre la nouvelle situation. En effet, qu'est-ce qu'ont en commun aujourd'hui la Hongrie et l'Albanie, la République tchèque et le Kazakhstan, la Slovénie ou la Biélorussie? Bon, le fait d'avoir eu pendant quelques décennies un régime de type communiste. Et certes, c'est un héritage lourd et chacun le surmonte à sa façon. Mais précisément, parce que chacun l'a surmonté à sa façon, il y a aujourd'hui une très grande différence des situations, une grande différenciation qui fait que le terme de post-communisme n'est plus très pertinent pour ranger ces pays. Et que si on fait véritablement un inventaire, une sorte de paysage après la bataille, eh bien, 10 ans après, on peut dire que nous avons au moins 3 entités distinctes, 3 ensembles qui se dégage. D'une part, un ensemble centre-européen dont les frontières sont encore imprécises, parce qu'il ne s'agit pas là d'une définition culturelle ou historique, mais il s'agit de, je me place là du point de vue du résultat de la transition. Il y a un certain nombre de pays qui ont non seulement mené à bien la transition à la démocratie, mais qui ont mené aussi à bien leur passage à l'économie de marché et qui, fondamentalement, n'ont pas de problème de sécurité majeur entre eux. C'est la situation en Europe centrale. Ça inclut les pays dits du groupe de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, auxquels on peut ajouter la Slovénie, ex-Yougoslave. On peut y ajouter aussi les pays baltes, mais ce n'est pas un club fermé, c'est disons, les pays qui sont la success story de la transition. Ce sont les pays où on peut dire que la démocratie aujourd'hui est consolidée, qu'ils ont une démocratie, qu'ils ont une économie de marché qui fonctionne. Hein, j'entends par là que plus de la moitié de leur PNB est dans le secteur privé, qu'ils ont entièrement réorienté leurs échanges vers l'Ouest. Hein, un pays comme la Tchécoslovaquie faisait le 3/4 de ses échanges avec le Comecon, avec l'Est. Aujourd'hui, elle fait les 3/4 de ses échanges avec l'Ouest, essentiellement avec l'Union européenne. Donc, réorientation des échanges, privatisation de l'économie, et aussi, pour la plupart de ces pays, une forte croissance. C'est des économies qui se sont effondrées avec la chute du communisme, mais qui sont reparties. Et vous avez la Pologne, dans les années 90, tout au long des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est le pays qui a le plus fort taux de croissance en Europe et un des plus rapides dans le monde. Au moment où, dans toute la première moitié des années 90, l'Europe avait une croissance zéro, la Pologne repartait avec une croissance de 6-7%, qu'elle a maintenue. Encore cette année, elle aura une croissance de 5 ou 6%. Donc, ce sont des pays qui ont économiquement et politiquement, en quelque sorte, maîtrisés. Je ne dis pas qu'ils ne sont sans problème, mais je dis en gros, c'est des pays qui ont maîtrisé leur transition et qui sont aujourd'hui des démocraties qui frappent à la porte de l'Union européenne. Il y a un deuxième groupe de pays, disons les pays des Balkans, où, pour toute une série de raisons sur lesquelles je reviendrai, la transition s'est moins bien passée, le poids de l'ancien régime communiste, le poids du sous-développement économique, le poids surtout du problème national, c'est-à-dire que ce qui est à l'ordre du jour, en plus de la transition à la démocratie, à l'économie de marché, de la société fermée à la société ouverte, il y a la transition à l'État-nation, la constitution de nouveaux États-nations. Cela concerne principalement l'ancienne Yougoslavie, mais à partir du moment où vous avez cette question de la définition du territoire, des frontières dans lesquelles s'inscrit la démocratie, tant que cette question n'est pas résolue, il est fort probable que la transition elle-même sera déraillée ou dévoyée. C'est ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, avec Milosevic, Tudjman et quelques autres concurrents sérieux dans l'autoritarisme nationaliste dans les Balkans. Donc, nous avons là une situation différente et qui, même si aujourd'hui elle connaît une certaine embellie avec le changement de régime à Belgrade et à Zagreb, bien entendu, les problèmes restent et je crois que les types de problèmes que posent les Balkans à l'Union européenne sont de nature un peu différente que ceux posés par les pays d'Europe centrale. Et puis il y a le troisième cas de figure qui est celui de la Russie et la question majeure concernant l'identité de l'État russe. Qu'est-ce que la Russie sans empire? La Russie a toujours été, s'est toujours définie comme un empire. Elle, selon la formule de Kluchevski, l'historien russe du début du siècle, il disait la Russie est un État qui s'est colonisé lui-même. Bon, c'est une belle formule pour les Russes, moins sympathique peut-être pour quelques autres qui ont subi à des moments divers l'expansion russe ou la colonisation russe, comme vous voudrez. Mais donc, c'est un empire qui s'est construit par une extension progressive de ses frontières et donc où la distinction entre l'État et l'empire n'existe pas. Et donc, la question essentielle de qu'est-ce que la Russie sans empire est une question qui est aujourd'hui encore en suspens. Et on peut dire qu'à bien des égards, le clivage central de la politique russe aujourd'hui tourne autour de cette question. Qui apportera et comment une réponse à cette question-là? Pour aller vite, et on pourra y revenir, la France sans l'Algérie, c'était la France encore. La Grande-Bretagne sans l'Inde, c'était la Grande-Bretagne. Mais la Russie sans empire, la Russie sans Kiev, sans l'Ukraine, etc., il n'est pas évident pour les Russes ce que c'est. Le débat est en cours sur cette question. Et donc, la quête d'une identité post-coloniale, post-impériale, est, je crois, la question clé pour la Russie. Mais, bien entendu, vous voyez que je décris là trois situations très différentes. La situation d'une Europe centrale avec une démocratie consolidée et un passage à l'économie de marché, une situation dans les Balkans où nous avons une série d'échecs ou de semi-échecs dans cette transition et la construction d'États-nations nouveaux. Le processus est loin d'être terminé. Vous voyez le Kosovo, vous voyez toute une série de points d'interrogation sur la Bosnie. Et puis, il y a la question de la Russie et de sa périphérie immédiate. Et donc, vous avez là trois situations, trois éléments de la nouvelle carte à l'est de l'Union européenne et bien entendu trois types de rapports différents, trois défis différents que cela pose à l'Union européenne et j'y reviendrai bien entendu tout à l'heure. Pour les pays d'Europe centrale, c'est la question de l'élargissement qui est posée, pour les problèmes des Balkans, c'est de savoir quel type d'intervention ou de protectorat. Pour la Russie, c'est quel type de partenariat on peut imaginer. Donc ce sont trois questions différentes et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais peut-être pour chercher un certain nombre de clés de lecture, et vous voyez que je me place là jusqu'à maintenant, je me suis placé dans la description de cette nouvelle carte à l'est de l'Union européenne du point de vue du résultat de la transition. Donc ce n'est pas du point de vue de la géopolitique, de l'histoire, de la culture, des clivages religieux ou autres. Non, je me place là strictement du point de vue du résultat d'une décennie de transition post-communiste, pour reprendre le mot. Donc la transition a donné des résultats différents, a posé des questions différentes, formulées différemment, et donc c'est à partir de ça que se différencie cet espace aujourd'hui. Ce n'est pas la velléité de grandes puissances qui sont en train de redessiner des sphères d'influence. Ce n'est pas ça qui dessine la nouvelle carte de l'Europe, n'est-ce pas ? C'est le processus de transition, mais bien entendu, lié à cela, le processus d'intégration ou de reconnexion avec l'Ouest, avec l'Europe occidentale. Et donc ce lien entre transition et intégration, c'est ça l'une des clés, bien entendu, de la carte à venir. Mais donc, si c'est ça le point de départ de ma démarche, je voudrais peut-être, pour éclairer ce que je viens de dire, donner quelques clés de lecture historiques. Parce que, bien entendu, si on se demande pourquoi les résultats sont différents 10 ans après, en Europe centrale, dans les Balkans ou en Russie, eh bien, il peut être utile, non pas de faire du déterminisme historique, mais d'avoir quelques points de repère. Et rassurez-vous, je le ferai brièvement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, on n'est pas là pour ça, mais je veux peut-être, à travers des cartes du passé, vous donner quelques repères sur le présent. Donc, voilà, c'est une carte de l'Europe de 1914, et elle ne m'intéresse ici, non pas pour vous dire « Ah, mais on va retrouver la... » Non, c'est pas du tout, je ne cherche pas dans le présent la répétition du passé, je cherche dans la situation présente un certain nombre d'éléments que je peux comprendre grâce à certaines références au passé. D'abord, et je le fais comme ça en style télégraphique, sur cette carte-là, trois éléments qui peuvent être utiles, intéressants pour ceux qui cherchent à comprendre la nouvelle donne d'après 89. Premier élément, à savoir, l'Europe centrale a eu autrefois une matrice qui est l'Empire austro-hongrois. Et il faut savoir au moins que pendant plusieurs siècles, ces pays ont partagé un système politique, administratif, juridique, et j'insiste sur le administratif et juridique. C'est-à-dire que l'Empire des Habsbourg n'était, nous le savons, n'était pas une démocratie libérale de type britannique, mais ce n'était pas non plus une autocratie de type russe. C'était un Rechtsstaat, un état de droit, et cette question de l'état de droit, cette question de la loi, l'obsession même de la loi. Si vous prenez la littérature fin de siècle, la littérature viennoise fin de siècle, hein, de Broch, Musil jusqu'à Kafka, qui pousse la réflexion jusqu'à l'absurde, vous avez cette obsession de la question de la loi, de la tension entre la légalité et la légitimité. Et bien entendu, c'est pour mener une critique parfois féroce de ce système. Mais cette question de la loi, elle est présente, elle est omniprésente. C'est une question qui est totalement absente, la question de l'état de droit, tant de l'Empire ottoman que de la Russie, qui est une autocratie. Et donc, l'héritage, n'est-ce pas, du point de vue de la culture politique, de la culture juridique, du point de vue de l'état de droit, n'est pas le même. Et si vous demandez aujourd'hui, 10 ans après, à la plupart des des économistes, des experts de l'Union européenne, etc. Quel est le problème majeur dans les transitions de l'Est, disons, pour aller vite, de l'ancienne Est? Eh bien, une des clés, une des différences majeures, c'est le rapport à la notion de l'État de droit. Et donc, ce n'est pas seulement le degré de développement économique, ce n'est pas seulement les taux de croissance, etc. C'est cette notion de l'État de droit essentielle pour la transition à la démocratie. C'est le constitutionnalisme, c'est-à-dire le respect de la Constitution comme un cadre contraignant pour tous. Et deuxièmement, c'est aussi, dans la transition économique, le respect d'un certain nombre de normes d'État de droit très importantes pour la mise en place d'une économie de marché ouverte sur l'Ouest, compatible, par exemple, avec l'Union européenne, la reprise de l'acquis communautaire de la législation européenne. La question première que se pose, je fais là une petite digression, que se posent les pays de l'Union européenne pour l'élargissement, c'est pas seulement est-ce qu'ils sont capables de reprendre la législation européenne, mais est-ce qu'ils sont capables de l'appliquer? Et bien entendu, donc, la question du rapport à l'état de droit est absolument essentielle. Donc, l'Europe centrale est un héritage particulier, assez différent de celui de l'Empire ottoman. Et là, si je devais identifier peut-être un ou deux éléments pertinents pour le présent, je dirais d'une part la présence dans cet espace de minorités musulmanes ou de minorités turques. Donc vous avez dans l'espace balkanique, bon, je n'ai pas besoin d'insister sur les bosniaques musulmans, héritage de l'Empire ottoman, donc ce sont des Slaves convertis à l'islam, les Albanais, trois quarts musulmans, ou des minorités turques, comme 10% de la population bulgare sont des Turcs. Donc, savoir qu'il y a là un héritage de l'Empire ottoman. Un deuxième héritage, c'est celui du système du millet. Hein, l'Empire ottoman ne reconnaissait pas le pluralisme politique, mais reconnaissait, disons, le pluralisme religieux. Et donc la communauté religieuse, le millet, était très importante puisque c'était le seul lieu où se réfugiait l'identité nationale. Et donc le lien entre identité nationale et identité religieuse était très important, d'où le poids de l'Église, indépendamment de la pratique religieuse qui est très faible dans les Balkans aujourd'hui, l'importance de l'Église dans l'identité nationale. Et puis, troisième élément, bien entendu, la question du rôle possible de la Turquie dans les Balkans aujourd'hui. Chose qui inquiète beaucoup, qui a inquiété beaucoup les Grecs, puis surtout les Serbes, dans un premier temps, mais qui, si l'on analyse froidement le comportement de la Turquie au cours de la dernière décennie, doit être relativisé. On a vu que la Turquie n'a rien entrepris dans la région qui soit, disons, en contradiction avec la politique de l'Union européenne ou de l'OTAN, parce que justement, la Turquie subordonne ses propres velléités dans la région au rapport qu'elle entretient avec l'Union européenne ou avec les États-Unis. Mais ce qui n'empêche que la Turquie elle-même réfléchit à cette nouvelle carte de l'Europe, et vous avez cette fameuse déclaration du président Demirel de 91, le président turc, qui dit « avec la disparition, avec la fin de la guerre froide et la disparition de l'Union soviétique, de nouvelles opportunités s'ouvrent à la Turquie, des Balkans jusqu'à la frontière chinoise bon, ». C'était un peu ambitieux, peut-être trop ambitieux, mais ça montrait que l'espace post-ottoman intéressait la Turquie d'aujourd'hui, mais là aussi, relativisé, s'il y a un espace qui est intéressant pour la Turquie, c'est plutôt le Caucase, c'est plutôt l'Asie centrale, c'est là qu'elle s'est impliquée, beaucoup plus que les Balkans, et si on doit voir la position de la Turquie, la position stratégique de la Turquie, elle a un pied dans trois crises dans la crise du Moyen-Orient, dans la crise du Caucase et dans la crise des Balkans. Et par rapport à ces trois, je dirais, c'est la troisième, c'est les Balkans qui sont le moins importants stratégiquement pour la Turquie. Donc, pas d'exagération, mais interrogation quand même sur le rôle de la Turquie et le poids du passé. Dernière remarque sur cette première carte. Voyez la Prusse orientale, Königsberg, ici. Ceux qui ont découvert qu'après la disparition de l'Empire soviétique, l'Allemagne pouvait avoir un rôle à jouer ou qu'il y aurait une influence économique ou autre allemande en Europe centrale, n'est-ce pas, faisait le semblant de découvrir une chose élémentaire depuis le XIIe, XIIIe siècle. Tout cet espace était caractérisé par une forte influence allemande, par la présence de minorités allemandes qui ont été pour la plupart expulsées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, tous les Allemands de Pologne, de Tchécoslovaquie, etc. Donc là, il y a eu l'expulsion massive. Donc aujourd'hui, c'est une Europe du centre-est sans les Allemands, mais avec un retour important de l'influence économique, au moins allemande, et l'Allemagne comme vecteur d'intégration à l'Occident. D'où d'ailleurs cette ambivalence du rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire, l'Allemagne a toujours été historiquement perçue dans cette région, à la fois comme un modèle de modernisation, de civilisation, d'ouverture sur l'Occident, donc c'est le côté attraction, et puis il y a comme une menace potentielle pour l'identité nationale. Et vous avez, je crois, à cause du déséquilibre, à cause du poids, à cause de la puissance, du déséquilibre de puissance. Et donc vous avez jusqu'à aujourd'hui, je pense, par rapport à cette présence allemande, vous avez cette ambivalence qui existe dans l'Europe, en Europe centrale et qui, bien entendu, doit quelque chose à ce que vous voyez sur cette carte. Je vais aller beaucoup plus vite parce que je crois que le temps presse pour la deuxième carte. D'ailleurs, elle est plus familière puisque c'est celle que nous avons connue pendant tout l'après-guerre. Peut-être juste un commentaire très rapide. Bon, il s'agit non seulement d'une Europe coupée en deux et de la plus formidable expansion militaire en Europe depuis la conquête, depuis les conquêtes ottomanes, mais savoir qu'il y a une redéfinition des frontières. Vous voyez ces espaces indiqués là, c'est toutes les modifications de frontières. Donc les pays baltes qui étaient indépendants sont annexés à l'Union soviétique, les frontières de la Pologne sont déplacées vers l'ouest, la Tchécoslovaquie perd l'Ukraine subcarpatique, vous voyez que la Roumanie perd la Bessarabie, bref, je ne vais pas faire l'inventaire complet, mais on change de frontière. Et cette idée qu'en Europe du centre-est, on change de front, que les frontières sont récentes, la plupart du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Hein. En gros, dans les Balkans, c'est du Congrès de Berlin, conférence de Londres, 1912, ça c'est les frontières albanaises, hein, question du Kosovo, ça remonte là, et surtout, bon, ensuite, le traité de Versailles ou alors l'après Yalta. Donc, il s'agit de frontières récentes. Les frontières est-européennes sont des frontières plus récentes que les frontières africaines. Et si c'est des frontières récentes, ce sont des frontières changeantes et ce sont donc des frontières souvent considérées comme peu légitimes puisqu'elles changent au gré des rapports de force entre les grandes puissances. Et la fameuse boutade de l'habitant de Tchernovitz qui pourrait aujourd'hui avoir 90 ans et quelques, qui serait né donc à Tchernovitz, sujet de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire autrichien, et qui, sans avoir jamais quitté sa ville, aurait changé au moins 4 fois de carte d'identité, au moins 4 fois de passeport. Hein? Il aurait été citoyen roumain, il aurait eu un passeport soviétique. Aujourd'hui, il a une carte d'identité ukrainienne, il serait citoyen de l'Ukraine. Et sans jamais avoir quitté sa ville, il a changé 4 fois de carte d'identité. Dans carte d'identité, il y a le mot identité. Et donc, que signifie l'identité nationale si vous pouvez en changer quatre fois dans une vie, si les frontières peuvent changer aussi fréquemment? Et donc, face à cette fragilité, face à cette incertitude sur les frontières et sur l'identité, vous avez des réactions que l'on voit aujourd'hui, bien entendu, puisque nous sommes dans une nouvelle phase de redéfinition des frontières et des identités, hein, redéfinition des identités et des territoires. Nous avons là, je crois, ce qui se passe depuis 10 ans, il faut le comprendre par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à ces frontières changeantes en 45, à ces frontières changeantes en 1919, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis le début du siècle. Et donc, vous pouvez avoir deux attitudes face à cela. Vous pouvez soit adopter l'attitude détachée, sceptique, ironique, ce qui caractérise l'attitude centre-européenne, la littérature centre-européenne, c'est l'attitude ironique, la distance ironique. Hein. Le brave soldat Schweik. Hein. L'histoire est faite par les grands, les grandes nations, et les petits la subissent et s'inventent un mode d'existence grâce à cette distance ironique avec la grande histoire faite par les grandes nations. Mais et c'est ce que vous trouvez dans le brave soldat Schweik, hein, qui commence par la formule. Il est dans une brasserie pragoise et il dit: alors on a tué Ferdinand aujourd'hui. Et Schweik demande: lequel? Celui qui ramasse les crottes de chiens dans la rue, ou celui dont le portrait est couvert de mouches là-bas? Bon, ça c'est une façon de dédramatiser le déclenchement de la Première Guerre. Bon, où vous avez Kafka, qui écrit dans son journal: le matin, déclaration de la guerre. L'après-midi, à la piscine. Donc ça, c'est une façon de gérer, si vous voulez, cette incertitude, cette histoire avec un H minuscule face à l'histoire avec un H majuscule. Mais vous avez ce qui est beaucoup plus fréquent, plus que la distance ironique. Vous avez plutôt, face à cette incertitude, face à cette redéfinition permanente des frontières et des identités et des territoires, vous avez plutôt un effet de compensation et de surcompensation. C'est-à-dire, j'affirme avec d'autant plus d'autorité que ce territoire a toujours été ukrainien, n'est-ce pas, que justement je n'en suis pas tout à fait sûr. Ou plutôt, je suis tout à fait sûr qu'il a changé plusieurs fois de main. Et ça concerne toutes les villes. Prenez toutes les villes d'Europe du centre-est, elles ont toujours plusieurs noms, un nom slave, un nom allemand, parfois un nom hongrois. Hein. Prenez la capitale de la Slovaquie, hein. Aujourd'hui ça s'appelle Bratislava, avant ça s'appelait Pozsony en hongrois, la capitale, et ça a été la capitale de la Hongrie après les conquêtes turques, quand les Turcs sont arrivés jusqu'à Budapest. Ça s'est appelé Presbourg aussi. Et donc vous avez là des identités multiples, hérité de l'histoire. Aujourd'hui, on construit des États-nations homogènes et il faut donc compenser cette incertitude que j'évoque par l'affirmation catégorique d'une identité claire, non pas plurielle, et si possible, l'accompagner d'expulsion ou de marginalisation de ce qui pourrait rappeler ou contester cette identité. Dernière, troisième carte, je l'évoque là que très rapidement, c'est la plus récente que j'ai trouvée, et par les temps qui courent, il faut la mettre à jour souvent. Elle est quand même caractérisée, comme vous le voyez, par le repli de la Russie. Hein. La Russie se rétrécit comme une peau de chagrin. C'est le fait majeur qui permet tout ce dont je parle jusqu'à maintenant. Vous voyez la prolifération des États, des nouveaux États indépendants. Deuxième caractéristique de l'après-89, prolifération des États. L'ex-URSS implose, l'ex-Yougoslavie implose, divorce de la Tchécoslovaquie, donc multiplication des acteurs politiques et donc complication, si vous voulez, politique de cette carte. Et puis, dernier élément, peut-être vous voyez cette ligne fine, c'est la ligne de clivage entre la chrétienté occidentale ici, et la chrétienté orientale, donc catholique et protestant à l'ouest de ses frontières, orthodoxe à l'est. Vous voyez que c'est une frontière, d'ailleurs, c'est une ligne qui ne, qui ne correspond pas du tout aux frontières des États. Un pays comme l'Ukraine est traversé, par exemple, vous voyez la ville de Lvov, à l'ouest, vous avez les Uniates, catholiques de rite orthodoxe, et un des clivages politiques majeurs par rapport à la question de l'indépendance ukrainienne recouvre en partie ce clivage-là. Je n'ai pas besoin d'insister aussi sur, vous voyez, en Roumanie, la Transylvanie, 2 millions de Hongrois qui sont pour la plupart protestants ou une petite minorité catholique, alors que les Roumains sont orthodoxes. Et évidemment, cela traverse l'ancienne Yougoslavie à la frontière serbo-croate et la Bosnie, elle-même divisée entre trois composantes religieuses. Donc, ça, c'est la carte la plus récente. Et permettez-moi, pour compliquer encore ce que je viens de dire, de vous montrer une carte qui est passablement confuse, mais c'est le but du jeu, de semer la confusion. Et c'est une carte qui est élaborée par des géographes, par l'Institut de géopolitique de Lyon, en 90, donc au lendemain de la chute du mur. Et ce qui intéresse les géographes qui établissent cette carte, ce n'est rien de tout ce que je viens d'évoquer jusqu'à maintenant. C'est ni l'histoire, l'Empire d'Habsbourg ottoman, c'est ni le clivage religieux, ce n'est pas les frontières qui changent. Non, ce qui les intéresse, c'est le potentiel de reconnexion, tel qu'ils l'évaluent, eux, à l'époque, le potentiel de reconnexion avec l'Europe occidentale, tel qu'ils l'évaluent au printemps 90. Et ils se fondent sur un certain nombre de données qui sont la proximité géographique, bien sûr, mais qui sont les foyers industriels majeurs, qui sont les villes de 100 à 500 000 habitants, qui sont donc toute une série de données démographiques, socio-économiques, essentiellement. Et à partir de ces données-là, et non pas à partir de ce que je viens de décrire il y a quelques minutes, ils proposent comme zone de reconnexion ceci. Il proposait, hein, c'était une carte d'il y a 10 ans. Alors, je ne sais pas si cela évoque quelque chose pour vous, mais enfin, on retrouve en partie la première carte que je vous ai montrée, et on pourrait donc s'interroger sur l'effet Habsbourg dans la transition à l'économie de marché ou à la démocratie en Europe centrale. Ils identifient une deuxième zone de reconnexion possible qu'ils ont trop prudemment identifiée à l'Estonie, parce que vous voyez, Tallinn est près de Helsinki, la langue d'ailleurs estonienne est proche du finnois, et les Estoniens pouvaient regarder la télévision finnoise pendant toute la période du communisme, un peu comme les Allemands de l'Est qui regardaient la télévision d'Allemagne de l'Ouest. Et donc, pour des raisons économiques, mais aussi de la proximité géographique et culturelle, ils ont surtout pensé à l'Estonie. Je crois qu'aujourd'hui, nous connaissons l'évolution des 10 dernières années et nous savons que c'est l'ensemble des pays baltes qui font partie aujourd'hui de cette formidable réussite de la transition. Ce sont les pays où la démocratie est non seulement consolidée, mais qui économiquement se portent le mieux. Et donc vous avez deux ensembles, un ensemble centre-européen habsbourgeois, entre guillemets, et puis vous avez les pays baltes. Si vous faites la jonction entre les deux, ça donne quelque chose à peu près comme ça. Et si cela vous rappelle quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait par hasard, il y a donc, au moins partiellement, ce serait suspect si c'était exact, mais au moins partiellement une correspondance donc, entre cette frontière-là, qui est en gros les pays qui ont réussi leur transition et où la reconnexion avec l'Ouest, l'Europe occidentale, l'Union européenne est en cours, elle correspond au moins en partie à la ligne de clivage entre la chrétienté occidentale et la chrétienté orientale. Évidemment, il ne s'agit pas là de faire du déterminisme. J'enlève les cartes et je vais peut-être simplement laisser l'avant-dernière, puisque c'est la carte politique. L'important ici, ce n'est pas de faire ni du déterminisme historique ou culturel, mais c'est de s'interroger. On ne peut pas quand même ne pas s'interroger sur le lien qui peut y avoir entre la carte des géographes de Lyon, qui font une carte de projection à partir de données socio-économiques, et un certain nombre de données qui sont des données historiques, socio-culturelles. Dans quelle mesure, donc, c'est la vieille question de Max Weber, hein, il s'est interrogé sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, est-ce qu'il faudrait pousser un cran plus loin cette interrogation et se demander s'il y a là aussi un terrain plus favorable, disons, à l'adoption de la démocratie libérale ou du marché dans les pays d'Europe centrale que dans la Russie ou dans les Balkans. Voilà, plutôt sous une forme interrogative et non pas donc sous une forme déterministe, mais ce n'est pas non plus parce que des gens comme Huntington, avec sa théorie du conflit des civilisations, qu'il réduit un peu, de façon un peu brutale et simpliste, un conflit de religion, ce n'est pas parce que Huntington a dévoyé ou détourné ce type de problématique qu'il faudrait ériger en tabou toute question qui concerne l'histoire ou la culture. Et donc je veux revenir en conclusion à la triple situation et la question du rapport que ces trois situations posent à l'Union européenne. Parce que finalement, si on parle de reconnexion ou d'intégration européenne, unification européenne, ce sont trois thèmes différents, bien entendu, tout cela se positionne par rapport à l'Union européenne, qui est par rapport à cela absolument déterminante. Donc, nous avons une situation qui concerne la Russie et qui est le partenariat. La Russie voudrait être traitée comme un pays candidat sans être candidat. Elle voudrait être traitée comme une grande puissance européenne sans être aujourd'hui ou sans avoir les moyens d'être véritablement une grande puissance. Donc, elle faisait peur autrefois par sa puissance. Aujourd'hui, elle inquiète par ses faiblesses, par son processus de désintégration interne. Et donc, le rapport à la Russie, nous le voyons avec l'accueil de Poutine par la France au nom de l'Union européenne, ce n'est pas donc sur le mode de l'intégration, mais c'est sur le mode de quel type de rapport, quel type de coexistence on peut formuler avec la Russie. Avec les pays des Balkans, nous sommes dans une situation où nous avons une problématique d'intervention, nous l'avons vu à plusieurs reprises, une problématique de protectorat ou de semi-protectorat. Bosnie, Kosovo sont aujourd'hui des protectorats de la communauté internationale, mais essentiellement des protectorats européens, pas seulement parce que la présence européenne, militaire, économique et politique est la plus importante, c'est aussi l'Union européenne qui fournit l'essentiel des fonds, des moyens de cette reconstruction, mais on peut considérer que des pays comme l'Albanie ou la Macédoine sont des semi-protectorats de fait. Ce sont des États fragiles ou effondrés qui sont sous perfusion, disons, de la communauté internationale et surtout de l'Europe. Et puis il y a une troisième situation qui est celle des pays d'Europe centrale et qui pose la question de l'intégration, non pas intervention, intégration, et donc de l'élargissement de l'Union européenne. Et là, nous avons trois questions posées par cette question de l'élargissement. On pourra peut-être en débattre si vous le souhaitez. La question des moyens économiques, du coût économique, hein, c'est tout ce qui était posé par l'agenda 2000. Est-ce que l'on se donne les moyens de faire l'élargissement? Est-ce qu'on est prêt à froisser même un certain nombre d'intérêts d'acquis au sein de l'Union européenne, hein? Pensez au fait que la moitié du budget de l'Union européenne, c'est l'agriculture. 3% de la population européenne bénéficie de la moitié du budget européen et des intérêts acquis qui sont des éléments de blocage par rapport, donc, à l'aspect économique, les intérêts acquis. Il y a la question de la sécurité, l'Union européenne, élément de sécurité, politique extérieure commune, ou bien l'OTAN. Ce qui est quand même frappant quand on parle de la nouvelle architecture européenne, c'est que 10 ans après la chute du mur, 3 pays d'Europe centrale adhéraient à l'OTAN et non pas à l'Union européenne. Et que le rêve du retour en Europe, tant annoncé en novembre 89, se réalisait paradoxalement sous le drapeau de l'OTAN et des États-Unis. Donc il y a là une deuxième interrogation sur l'Europe est-elle capable de fournir le cadre de sécurité adéquat. Et puis un troisième élément qui est la question de la souveraineté, la question qui se pose non seulement pour les pays candidats qui doivent être confrontés à des abandons de souveraineté qu'ils viennent à peine de recouvrer, mais aussi pour l'Union européenne qui doit redéfinir ses règles de fonctionnement pour s'élargir. C'est l'enjeu de la conférence de Nice. Or, tout cela débouche en dernière analyse sur la question des frontières en Europe et des frontières de l'Europe. Des frontières en Europe parce que élargir l'Union européenne qui abolit les frontières internes signifie quel type de frontières nous aurons à l'extérieur de l'Union, les frontières Schengen. Est-ce que c'est une forteresse Europe? Est-ce que c'est des frontières ouvertes ou des frontières fermées? Et là, le point de vue des pays candidats n'est pas du tout le même que ceux des États membres. Et puis surtout, les frontières de l'Europe. Jusqu'où doit aller ce processus d'élargissement? Vous avez vu qu'au sommet de Helsinki en décembre l'année dernière, on a annoncé que la Turquie faisait partie de la liste des pays qui ont vocation à entrer dans l'Union européenne. Si vous avez la Turquie, vous n'avez plus d'argument à opposer à la Russie. Elle est aussi, au moins aussi européenne que la Turquie, géographiquement, historiquement, culturellement et politiquement. Ce qu'ils font aux Tchétchènes n'est pas très différent de ce que la Turquie fait aux Kurdes. Donc, vous n'avez... Et si vous élargissez vers la Turquie, c'est-à-dire c'est une Union européenne qui, pendant 10 ans, hésite à s'élargir en Europe centrale et qui, soudain annonce son élargissement vers le Moyen-Orient. Frontières avec Irak, Iran, la Syrie, etc. Vous voyez donc l'enjeu géopolitique tout à fait différent de l'élargissement s'il est posé comme ça. Bon, la réponse, vous la connaissez déjà. On annonce le très grand élargissement pour, en fait, dans le sillage, annoncer la nécessité d'une avant-garde, d'un noyau dur, groupe de pionniers, comme disait avant-garde, c'est le terme de Jacques Delors, groupe de pionniers. C'est le terme de Jacques Chirac. Tout ça, c'est des termes qui, d'ailleurs, en Europe centrale, sonnent. Vous voyez, avant-garde, groupe de pionniers. On a déjà donné dans ce domaine. Mais la double crainte, ça reflète, je crois, aujourd'hui, la double crainte, celle des pays membres de l'Union européenne qui craignent que l'élargissement vide le projet européen de son contenu. Et la crainte des pays candidats d'Europe centrale qui craignent que le noyau dur, l'avant-garde, le groupe de pionniers, ne vide l'élargissement de son contenu. C'est autour de ce débat que va se définir, dans les années qui viennent, la nouvelle frontière européenne. Merci de votre attention.
Ce que vous venez de dire pour le statut de l'ouverture de l'Europe et le point de vue disons, des pays d'Europe centrale qui sont donc, nous l'avons bien compris, beaucoup plus proches d'une possibilité d'entrée, ma question est la suivante. Quel est, par rapport à leur statut d'associé aujourd'hui, quels seraient les avantages économiques substantiels qu'ils ont en dehors du fait de les désavantages, j'allais dire, de pouvoir intégrer donc, le point de vue subjectif d'une intégration dans l'Europe. Est-ce que sur le plan économique, cela devrait changer beaucoup de choses pour eux s'il était décidé demain qu'ils intégraient l'Europe?
Je pense que sur le plan économique, ça change pas mal de choses puisqu'ils auraient un accès au marché européen, au marché ouest européen, dans les domaines où ils sont compétitifs aussi. Vous savez que jusqu'à maintenant, les accords d'association qu'ils ont signés en 91 établissaient des relations commerciales entre les deux Europes, si vous voulez, mais avec un certain nombre de clauses restrictives. Et que dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, l'acier, les textiles, bref, les rares domaines où ils étaient compétitifs, ils n'avaient pas un accès plein aux marchés occidentaux. Donc ça leur donnerait un accès à ces marchés. Je signale au passage que l'Union européenne fait un surplus commercial extraordinaire, hein, des dizaines de milliards d'euros par an avec les pays d'Europe du centre et de l'Est. Donc quand on parle du coût que ça pourrait représenter pour l'Union européenne, ce n'est pas la question que vous m'avez posée, mais je le signale au passage, on oublie de signaler que c'est déjà un avantage énorme, un surplus énorme commercial. Donc, premier avantage pour eux, accès au marché européen pleinement et entièrement, ça c'est très important. Deuxièmement, et bien entendu, vous savez que pour des investisseurs, c'est très important de savoir que le pays est dans l'Union européenne, obéit à certaines règles, il y a des moyens de les faire appliquer quand vous êtes membre de l'Union européenne. Donc pour des investisseurs, c'est très important de savoir que vous investissez dans un pays qui fonctionne selon les règles de l'Union européenne et dont les produits, ce que vous allez produire, sera vendu sans entrave dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc très important pour les investissements. Troisième élément, l'Union européenne, c'est aussi, il y a un élément qui n'est pas aussi important qu'il devrait l'être, mais qui existe, qui est un élément de solidarité, un élément de redistribution. Et vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les fonds structurels, la redistribution des fonds à des régions défavorisées, des fonds dont ont bénéficié énormément des pays comme l'Irlande, l'Espagne, Portugal, la Grèce, etc. La Grèce, ça lui a fourni pendant ces dernières années environ 2 à 3 % de son PNB. Regardez le miracle irlandais. Tous les économistes vous diront que la formidable expansion de l'économie irlandaise est due en grande partie au bon usage qu'elle a fait des fonds européens. Aujourd'hui, le PNB par tête en Irlande est supérieur à ce qu'il est en Grande-Bretagne. C'est une inversion historique incroyable. Et c'est largement dû aux facteurs européens. Donc, l'idée, évidemment, c'est que cet élément de solidarité et de redistribution concerne les régions des pays candidats. Et donc, ce serait, pour eux, le troisième élément. Ils sont perdants dans l'immédiat parce qu'ils ont ouvert leurs marchés. Ces marchés ont été conquis par les entreprises occidentales, françaises entre autres, très bien, mais ils ne bénéficient pas, disons, de la contrepartie de cet élément de redistribution et de solidarité qui fonde aussi l'Union européenne et donc je crois qu'il pour eux serait très important, un motif très important d'adhésion.
Monsieur, ici.
Oui, bonjour, donc tout d'abord merci pour votre exposé remarquable. J'avais une question très simple, la Commission européenne vient de sortir très récemment un document sur sa stratégie d'élargissement. Quelle est à votre avis la carte de l'Europe? Vous avez proposé plusieurs cartes de l'Europe. Quelle est à votre avis la carte de l'Europe que la Commission européenne, enfin à laquelle elle se réfère pour déterminer sa politique?
Je crois qu'on serait tous bien intéressés de le savoir. C'est une carte à géométrie variable. Elle varie selon les équilibres, les pressions politiques du moment. Vous savez que dans un premier temps, l'élargissement, en 1997, était annoncé pour 5 pays candidats. Il y avait dans un premier groupe de pays considérés comme les plus avancés, donc en juillet 1997, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovénie, Estonie. Donc ça, c'était le premier groupe, le groupe pilote. Ça, c'est un premier élément de réponse parce que, évidemment, c'est en gros le groupe des premiers candidats potentiels. Et puis, vous avez eu donc la décision de décembre l'année dernière d'élargir ce groupe à un second cercle de pays qui concerne les autres pays baltes, Lettonie, Lituanie, des pays des Balkans comme la Bulgarie et la Roumanie et j'ai mentionné aussi la Turquie. Bon, il y a par ailleurs Chypre et Malte qui ont été inclus dans ce processus. Donc vous voyez que le nombre croît. Et donc, quelle sera la carte? C'est très difficile. Je pense qu'on peut raisonnablement envisager que si les réformes institutionnelles de l'Union européenne aboutissent en décembre à Nice, on ne pourra plus éluder la question de l'élargissement. Jusqu'à maintenant, la question de l'élargissement, c'était comme le triangle des Bermudes. Plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Donc, on est 11 ans après la chute du mur. Pour l'instant, ils sont tous dans la salle d'attente. Ils sont en train d'éplucher leurs 80 000 pages de l'acquis communautaire, hein, donc de cette réglementation européenne, qu'ils doivent adopter dans leur législation. Et bon, 80 000 pages, il y a de quoi faire. Il y a de quoi s'occuper pendant un certain nombre d'années. Et puis, vous avez les rapports, vous faites allusion aux rapports de la Commission européenne qui donne donc une fois par an la copie corrigée. Hein, c'est un peu la version latine, copie corrigée. Et voilà, vous avez réussi, vous n'avez pas réussi. Et on peut faire un classement donc, des pays selon les évaluations faites par la communauté européenne. Mais on peut donc raisonnablement envisager une première vague qui concernerait le groupe que j'ai mentionné. Et puis, ensuite, alors une interrogation sur la deuxième vague qui concernerait peut-être des pays comme les autres pays baltes, Lituanie, Lettonie, la Slovaquie. Et alors, la grande question, c'est les Balkans. Parce qu'évidemment, il y a, je crois, pour des raisons politiques, la nécessité d'offrir une perspective européenne dans les Balkans, et en même temps, le constat que ni économiquement, ni politiquement, ni juridiquement, ils ne sont prêts. Ils ne seront pas prêts pendant très, très, très longtemps. Et donc, vous avez le fameux pacte de stabilité qui a été proposé pour les Balkans, qui n'est acceptable. C'est-à-dire que vous dites aux pays de la région, vous coopérez entre vous, même si vous vous détestez, vous coopérez entre vous parce que c'est votre intérêt bien compris si vous voulez un jour rejoindre l'Union européenne. Mais cet argument européen, il n'est crédible que si le processus d'élargissement vers ceux qui ont réussi la transition avance. Si vous ne faites pas avancer le processus d'élargissement, comment voulez-vous qu'un Macédonien ait l'impression qu'il a une chance de rentrer un jour dans l'Union européenne s'il voit que les Tchèques, les Hongrois ou les Slovènes n'y sont pas? Il n'est pas fou, il voit bien que le PNB des Slovènes est 15 fois supérieur au sien, il voit que c'est des démocraties stables, il voit qu'ils ont un commerce avec l'Ouest, et si lui, on lui promet un avenir européen, il y croira vraiment s'il voit que le train de l'élargissement est en marche. Donc, c'est un processus ouvert, et tant mieux s'il est ouvert. Je veux dire, mon idée, c'est, est-ce qu'on connaît les frontières de l'élargissement? On ne les connaît pas, et c'est tant mieux, parce que c'est le projet européen, le projet démocratique européen qui doit définir ses frontières et non pas l'inverse, c'est-à-dire un projet défini par des frontières culturelles ou historiques préétablies que quelqu'un aurait décidé, non plus les grandes puissances, mais les experts de Bruxelles. Donc, en un sens, laisser le processus ouvert est une bonne chose, sachant quand même que je crois en particulier la question de la Russie et de la Turquie, là ça pose des questions qui remettent en cause alors complètement les fondements de cette politique d'intégration et d'élargissement et qui renvoie à ce qui est déjà annoncé dans cette réflexion sur le noyau, le groupe des pays pionniers, etc., c'est-à-dire refaire une union de l'européenne au sein de l'Union européenne.
Monsieur.
Oui, bonjour. Il y a plein de questions, effectivement, qui surgissent. D'une manière très désordonnée, est-ce qu'il n'y a pas, à long terme, un danger perceptible de raisonner, dans le cadre de l'Union européenne et de son élargissement, en termes d'adhésion de pays, pour aller vite dans le cadre d'un nouveau bloc? Est-ce qu'il n'y a pas donc dans les rapports, quand on sait que qu'un certain nombre de pays, dont la France ou l'Allemagne, je crois, ont un échange, dans leurs échanges économiques et commerciaux, ont une part très importante qui est à l'intérieur de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc un danger en même temps pour, dans le cadre de cet élargissement, pour ces pays dont vous avez bien situé les enjeux. Est-ce qu'il n'y aurait pas donc un danger à ne pas que ces pays non plus restent ouverts sur des investissements extérieurs? Est-ce que l'Union européenne ne peut pas être comprise à un moment donné également comme un... Vous avez parlé des fonctionnements d'empire. Est-ce que la question ne peut pas se poser à terme par rapport aux autres, aux autres grandes entités que sont les États-Unis ou les pays d'Asie? Et la dernière petite question, c'est celle-ci. Est-ce que tout cela peut avoir ou a déjà ou aura donc une influence, une incidence sur la question de la monnaie unique?
Bon, ça fait beaucoup. Pour aller vite sur la première question, bien entendu, l'élargissement de l'Union européenne ouvrirait ce grand marché d'Europe du centre et de l'Est, l'intégrerait au marché occidental et renforcerait donc une puissance économique européenne. Mais ce n'est pas du tout une panacée, il n'y aurait pas une relation exclusive. Nous sommes à l'heure de la mondialisation, vous avez certainement eu des conférences là-dessus, et ce n'est pas parce qu'on est membre de l'Union européenne qu'on n'est pas intégré à l'économie internationale. Et donc la présence d'autres acteurs économiques, d'ailleurs ils sont déjà présents en Europe centrale, que ce soit les Japonais, les Américains, sont présents, pas autant que l'Union européenne, mais il y aura donc les effets de la mondialisation touchent déjà l'Europe du centre-est de plein fouet, et leur intégration à l'Union européenne pose un peu les mêmes problèmes que pour les membres de l'Union européenne. Et vous avez dit, est-ce qu'on peut comparer donc l'Union européenne à une sorte d'empire ? Oui, on pourrait peut-être dire qu'elle peut être pour les pays d'Europe centrale une sorte d'équivalent fonctionnel de l'Empire des Habsbourg. À quoi servait l'Empire des Habsbourg ? À neutraliser les tensions et les conflits entre les nations centre-européennes, d'une part, et d'autre part, à équilibrer le rapport entre les petites nations d'Europe du centre-est et l'Allemagne. Et on peut dire, d'une certaine façon, le désir d'Europe et l'appartenance future d'un certain nombre de ces pays à l'Union européenne remplit la même fonction, c'est-à-dire neutralise les tensions entre eux. Voyez comment, au nom de l'Europe, la Hongrie a signé des traités avec la Roumanie, avec la Slovaquie, concernant la reconnaissance des frontières, intangibilité des frontières et reconnaissance du droit des minorités, puisque vous avez donc des minorités hongroises de l'autre côté de la frontière. Ça, c'est la démarche européenne. Pendant X années, toute la politique hongroise de l'entre-deux-guerres était obsédée par la peur du bolchevisme et par la revanche, le révisionnisme, changer les frontières, abattre le système de Versailles et de Trianon. Ça, c'est le grand point. Ça a mené la Hongrie vers un régime d'extrême droite, une dictature d'extrême droite, qui a été le dernier allié d'Hitler. Bon, ça, c'est une expérience. L'autre démarche, celle qui est suivie maintenant, c'est celle de dépasser cette problématique-là, de l'État-nation, à travers une démarche européenne. C'est-à-dire, la Hongrie redéfinit son rapport avec ses voisins, où se trouvent des minorités hongroises, au nom de l'Europe. C'est l'équivalent fonctionnel, comme je vous disais, de l'Empire des Habsbourg. On reconnaît des frontières pour mieux les dépasser. Ça, c'est la démarche européenne. Pour d'autres, le rôle de l'équilibre avec l'Allemagne est très important. L'appartenance à l'Union européenne pour des Tchèques, par exemple, c'est très important dans la mesure où ça permet de rééquilibrer un rapport qui est déséquilibré. L'Allemagne s'est réunifiée, la Tchécoslovaquie s'est dissoute, le déséquilibre qui était ancien est encore plus marqué. L'appartenance à l'Union européenne, ou à l'OTAN d'ailleurs, ça a un peu la même fonction, permet de rééquilibrer ces rapports.
Monsieur, allez-y.
Bien, je tiens d'abord à remercier l'orateur pour la remarquable documentation qu'il nous a apportée. Mais je souhaitais lui poser deux questions. La première question est la suivante. Comment peut-on bien faire confiance à l'attitude des gouvernants turcs quand on voit ce qui se passe à Chypre ? Deuxième question que je connais de par mon histoire personnelle, est-ce qu'il a bien évalué, est-ce qu'on peut bien évaluer, sans le connaître de près, le potentiel de haine, en particulier anti-musulmane ou anti-albanaise, qui s'est accumulé dans les Balkans depuis un siècle? Parce que, personnellement, des personnes qui sont nées au début du XXe siècle crachaient en disant albanais. Ils ne pouvaient pas s'en empêcher.
Très brièvement, sur la... peut-on faire confiance à la Turquie? Pas plus ni moins qu'à d'autres, je ne pense pas. J'ai quelques doutes sur la démarche de l'Union européenne qui consiste à déclarer candidat un pays qui n'a pas résolu un certain nombre de conditions préalables, n'est-ce pas? On était très strict pour les conditions appliquées aux pays d'Europe centrale, pour qu'ils puissent être candidats. Il y a les fameux critères de Copenhague, et il faut qu'ils aient une démocratie stabilisée, une économie de marché, qu'ils soient capables d'assumer l'acquis communautaire, qu'ils n'aient pas de conflits et de tensions avec leurs voisins sur les questions de frontières. Or là, pour faire plaisir aux Grecs, hein, je parle brutalement, pour satisfaire une demande grecque dont on avait besoin du soutien des Grecs pour telle autre chose au sein de l'Union européenne, donc à titre de compensation à la fin des sommets européens, les Grecs disent « oui, on fera ça si vous avez inclus le Chypre dans l'élargissement ». Mais vous allez inclure une situation qui est elle-même qui n'est pas résolue. Et vous pouvez soit avoir une version optimiste et vous dire « mais la perspective d'entrer dans l'Union européenne va, par miracle, opérer le même effet que je viens de dire sur la Hongrie, et donc dépasser les passions nationalistes, etc. » Ça, c'est le scénario très optimiste. L'autre scénario, c'est le scénario que l'on a déjà entendu de la part des Turcs, c'est-à-dire si la partie grecque de Chypre devait adhérer séparément, la Turquie déclarait l'annexion pure et simple du reste du territoire à la Turquie. Donc, on aurait résolu quoi ? On aurait, par le processus européen, contribué à la division plutôt qu'à l'élargissement. Donc, je reste un petit peu sceptique. Bon, pour ce qui est du potentiel de haine, je ne crois pas aux haines ancestrales. Je ne crois pas que le conflit des Balkans était ni un conflit religieux, etc. C'était le plus... On nous a souvent parlé, n'est-ce pas, c'est un conflit, vous voyez, ils sont divisés par des religions. Bon, c'est le plus grand conflit religieux mené par des athées. Hein. Milošević n'a jamais mis les pieds dans une église, mais ça n'empêche pas d'être de mobiliser ou d'exploiter les nationalismes ou les frustrations nationales, de les créer, de les inventer, de les susciter. Bon, ça, c'est un processus de manipulation par des élites post-communistes. Et il faut espérer que maintenant que Milošević, mais aussi Tudjman et un certain nombre d'autres sont écartés de la scène politique, qu'on peut entrer dans les Balkans dans une nouvelle phase. Je crois que cette décennie a été terrible. C'était quand même une leçon, je crois, pour tout le monde. C'est-à-dire la Yougoslavie, qui était le pays le mieux placé au moment de la chute du communisme, en 89, pour un arrimage européen. Hein, c'était le pays qui avait connu le communisme le moins stalinien, le plus tolérant relativement, et aussi la plus grande ouverture sur l'Ouest. Ils avaient tous des passeports, ils voyageaient librement en Europe occidentale. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de travailleurs yougoslaves travaillaient surtout en Allemagne ou d'autres pays d'Europe occidentale. Et donc le pays qui était le mieux placé, le plus ouvert, le mieux préparé pour la sortie du communisme se retrouve aujourd'hui le paria de l'Europe, complètement marginalisé. Le PNB de la Serbie aujourd'hui est 10% de ce qu'il était il y a 10 ans. Et tous les pays de l'ex-Yougoslavie, sauf la Slovénie qui avait la grande chance de ne pas avoir de minorité serbe sur son territoire et donc qui a échappé à l'armée serbe. Mais dans l'ensemble, vous avez donc une décennie de guerre qui a été une formidable régression. Et je crois que tout le monde aujourd'hui, maintenant que Milošević est parti, je crois peut méditer sur le bilan de cette décennie guerrière et la façon dont elle a contribué à marginaliser, une fois de plus, les Balkans, faire de cette région une périphérie une périphérie marginale de l'Europe. Et donc, il y a là, je crois, un autre cercle plus vertueux qui est en train de s'enclencher, mais qui ne fonctionnera que si l'Europe, elle, s'implique pleinement. Et ça, c'est le grand point d'interrogation. Est-ce que l'Europe ne réagit que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une guerre, lorsqu'il y a la violence, comme c'était le cas en Bosnie ou au Kosovo, ou est-ce qu'elle est prête de jouer la fonction qui est véritablement sa vocation, c'est-à-dire une fonction non pas curative, mais préventive, c'est-à-dire introduire dans les rapports entre les États des Balkans une autre logique de rapport qui soit basée sur la coopération ou l'intégration et qui permette donc à terme un arrimage européen.
Je vous demande de vous en, on va en prendre encore quatre de questions. Je vous demande de vous en tenir à une chaque fois. Merci.
Le rapport, le problème essentiel pour l'Europe paraît être sa rivalité avec les États-Unis sur le plan économique. Donc il y a un rapport de force. Est-ce que vous pensez que les phénomènes d'intégration pourront notablement, raisonnablement et dans un temps court, améliorer ce rapport de force ?
Je crois que le rapport à la puissance américaine n'est pas tout à fait le même chez des pays qui sortent de l'orbite soviétique que les pays d'Europe occidentale. Je simplifie délibérément leur attitude. On peut dire, pour répondre vite, on pourrait dire oui, l'Europe sera élargie, sera plus forte, économiquement plus puissante, politiquement plus cohérente, et elle pèsera plus sur la scène internationale, et cela équilibrera le rapport avec les États-Unis. Mais évidemment, il faudra redéfinir ce rapport à la puissance américaine. Et j'insiste donc sur le décalage qui existe, qui peut être que provisoire, mais qu'il faut noter quand même, du rapport que les pays d'Europe du centre et de l'Est ont à la puissance américaine. D'abord, le mot hyperpuissance, qui en France a une certaine vogue et un certain attrait, ne les gêne pas autant. C'est-à-dire que pour eux, rentrer dans l'OTAN, par exemple, pour les pays d'Europe centrale, ce n'est pas se mettre sous la coupe de la domination américaine, non, c'est se mettre sous la s'intégrer à un ensemble de démocraties occidentales, même si cette alliance est dominée par la puissance américaine, ça permet de rééquilibrer justement le rapport avec d'autres puissances européennes plus importantes, l'Allemagne en particulier. Donc, ils n'ont pas, face à la puissance américaine, les mêmes appréhensions ou les mêmes craintes que certains en Europe occidentale et particulièrement en France. Ils ont vu aussi le bilan de la décennie dans les guerres de l'ex-Yougoslavie. Ils ont vu que l'Europe, face à la guerre en Bosnie, s'est avérée impuissante et qu'en gros, eh bien, c'est l'intervention de l'OTAN et des États-Unis qui a mis un terme à la purification ethnique, ce qui a mis un terme à la politique de Milosevic au Kosovo. Donc, on n'a pas forcément en Europe centrale la même vision qu'à Paris, la même méfiance vis-à-vis de la puissance américaine sur le plan de la sécurité. Le modèle économique américain aussi ne souffre pas de la même opprobre ou de la même méfiance. En France, on parle du modèle anglo-saxon par opposition au modèle rhénan. C'est la distinction que faisait Michel Albert dans son livre. Mais il faut savoir qu'au moment où ces pays sortaient du communisme, quand on est en train de démonter une emprise de l'État totale sur l'économie, sur la société, etc., la référence au modèle libéral dit anglo-saxon est une référence qui paraît plus plausible qu'un modèle, disons, social-démocrate ou interventionniste par l'État. Ça ne veut pas dire qu'il le réalise ensuite, ce modèle libéral. Vous regardez 10 ans après les pays d'Europe centrale, ils sont évidemment beaucoup plus proches dans l'équilibre entre l'État et le marché des sociétés d'Europe occidentale que des États-Unis. Je parle là de ils n'ont pas face au modèle dit libéral ou anglo-saxon, la même méfiance ou la même réprobation idéologique, parce que simplement ils viennent d'ailleurs, ils sortent. Leur tâche était de démonter le démontage d'une économie étatiste. Et je dirais troisièmement, pour ce qui est du troisième élément de la méfiance européenne ou française vis-à-vis de l'influence américaine, qui est l'hégémonie culturelle, l'exception culturelle, enfin vous connaissez tous ce débat sur les méfaits, les dangers de l'américanisation, là aussi, des pays qui sortent d'un demi-siècle de contrôle idéologique de la culture, de la censure, etc., acceptent plus facilement et surtout sont réticents, plutôt je devrais dire comme ça, sont réticents devant toute idée d'introduire une censure, des quotas, qu'il y aura, quelqu'un va décider, un organisme d'experts va décider à votre place le dosage des films européens ou américains que vous aurez le droit de regarder, etc. Je ne dis pas qu'ils ont raison, j'essaie simplement d'expliquer parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils ont vécu une autre situation, ils ont donc par rapport à la puissance américaine, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de l'économie ou de la culture, une attitude qui est différente. Ça n'en fait pas pour autant, il ne s'agit pas de semer la suspicion sur leur engagement européen, ils sont des Européens très attachés à la culture européenne, mais ils ont peut-être une attitude vis-à-vis des États-Unis qui est beaucoup plus conforme aux leçons qu'ils tirent de leur histoire. La leçon, elle est quoi ? Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis se sont désengagés de l'Europe. Ça a très mal tourné pour l'Europe et surtout pour l'Europe du centre-est. C'est là qu'ont été les premières victimes d'Hitler. Hein. C'est la Pologne qui a été ravagée, c'est la Yougoslavie qui a été ravagée beaucoup plus que l'Europe occidentale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont restés présents en Europe et cela a évité une autre guerre. Cela a permis aujourd'hui à la démocratie de revenir même dans les pays d'Europe du centre-est. Voilà leur vision d'une relation transatlantique qui n'est pas perçue comme une menace, mais comme un prolongement de leur engagement européen.
Il reste trois questions. Je demanderai aussi d'être rapide dans les réponses, parce qu'on va bien devoir fermer. Monsieur, madame, et puis là-haut.
Allô. Allô. Allez-y, c'est bien. Bonjour, monsieur Rupnik. Pourriez-vous nous parler encore une heure ? Une question.
Non.
Que peuvent devenir à long terme.
On va arrêter.
À long terme, que peuvent devenir l'ancienne Prusse orientale et la Moldavie.
L'ancienne Prusse.
Orientale,
oui. Et Moldavie. Et l'ancienne Prusse orientale et la Moldavie. Bon. Je devine un peu la. La question pour la Prusse orientale. Allons très vite. Le symbole par excellence de la Prusse orientale, c'est Königsberg, la ville d'Emmanuel Kant et de Hannah Arendt. Est-ce que Königsberg, devenu Kaliningrad, et donc une base militaire soviétique puis russe, est-ce que Kaliningrad peut redevenir Königsberg, en quelque sorte ? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de Königsberg-Kaliningrad comme un Hong Kong pour la Russie ? Une zone de transfert privilégiée de technologie, de modernité industrielle vers la Russie. Un pont, les pays baltes et cette Prusse orientale, Königsberg, une sorte de pont, de vecteur, dans les relations entre l'Occident, l'Allemagne et la Russie. Ça, c'est un scénario optimiste. Certains y ont songé sérieusement. Vous savez qu'on a, les Russes ont pensé qu'on pourrait remettre sur son piédestal la statue d'Emmanuel Kant, qu'on pourrait ramener les Allemands de la Volga. Vous savez qu'il y a des populations allemandes. Donc on est allé chercher ces paysans soviétiques qui parlaient à peine l'allemand, mais qui étaient d'origine allemande. On pensait qu'on pourrait les amener là. Et puis on pensait qu'avec des investissements allemands, peut-être, Kaliningrad redeviendrait Königsberg. Bon, ce n'est pas tout à fait réalisé. D'abord parce que Königsberg reste une base militaire russe. Tant que c'est une base militaire, ça ne pourra pas être un Hong Kong. Deuxièmement et surtout, il y a quand même l'histoire est passée par là. Je veux dire, vous savez, il y a la comtesse Dönhoff, Marion Dönhoff, qui est la fondatrice et encore aujourd'hui la directrice de l'hebdomadaire de Hambourg Die Zeit. Et elle raconte dans ses mémoires comment elle a fui Königsberg à la fin de la guerre, à cheval, elle a traversé la Pologne, bon, c'est très beau. Et puis elle est retournée pour la première fois à Kaliningrad au début des années 90. Et elle a cette formule lapidaire pour répondre à la question que vous posiez. Elle dit Kaliningrad ressemble beaucoup plus à Irkoutsk qu'à Königsberg. Et je crois que ça, voilà, pour le retour de la Prusse orientale, je crois que ça résume tout. Et bon, sur la Moldavie, il y aurait beaucoup à dire. Essentiellement, un pays divisé entre la partie russophone en Transnistrie, liée à la Russie, et la partie roumanophone, même si maintenant on considère que c'est une langue moldave différente du roumain, mais en fait c'est le roumain. Et donc, il y a un point d'interrogation sur la viabilité de cette république qui est une création du soviétisme, de l'Union soviétique, ou bien est-ce qu'à terme, nous verrons ce pays se scinder en deux avec une partie rattachée à la Roumanie et l'autre à la Russie. Mais pour que ce soit motivant pour les Moldaves, il faudrait que la Roumanie soit motivante. Ce n'est pas très intéressant aujourd'hui de se rattacher à la Roumanie.
Madame.
Oui, monsieur. Bonjour. Il me semblait que l'élargissement n'était pas une question, mais une affirmation, c'est-à-dire que aussi bien eux que nous désirions nous rejoindre. Mais en fait, ce que je crois, et que nous sommes très très nombreux à partager, c'est que nous ne désirons pas qu'ils nous rejoignent, nous étant dans l'état dans lequel nous sommes, dans l'Union européenne, et eux étant dans l'état dans lequel ils sont, à l'heure actuelle, et qu'en fait, on a un petit peu cette impression que s'ils nous rejoignent en l'état, le leur comme le nôtre, ce sera pour bâtir une Union européenne sur la base d'un plus petit commun dénominateur, alors que nous souhaitons un plus grand commun dénominateur. Et ceci pour amener ma vraie question, à savoir, il y a 10 ans, et je ne connais pas la genèse de cette idée, mais plusieurs personnalités avaient fondé l'idée de bâtir une confédération européenne, parce qu'ils avaient prévu, eux, qu'effectivement, dans les 10 ans à venir, on ne pourrait pas résoudre ces points de friction entre nous aussi facilement que ça. Et cette confédération aurait été à même de nous permettre de nous réunir sur un grand espace, de bâtir un socle de valeurs communes, et par la suite de fusionner, le cas échéant, les organisations, et nous permettre, nous, pendant ce temps-là aussi, de refonder le projet européen, avec leur aide et leur participation. Est-ce qu'il n'y a plus de possibilité de remettre en vigueur cette idée qui me semblait en tout cas assez fructueuse. Je crois d'ailleurs qu'en plus Mitterrand l'avait également adoptée. Et il me semblait que c'était Havel du côté Europe centrale qui pouvait être porteur de ce projet.
Bien, peut-être ça va être la dernière réponse. Sur le premier point, vous dites nous souhaitons tous cette réunification, on souhaite tous se rejoindre. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça, c'est-à-dire nous prétendons souhaiter votre entrée dans l'Union européenne et vous prétendez être prêt. Donc ça, c'est l'hypocrisie ambiante et ça s'appelle débat sur l'élargissement. Mais vous dites, est-ce que ça signifie rechercher le plus petit dénominateur commun ? Écoutez, on ne s'est pas posé cette question quand on a fait rentrer la Grèce dans l'Union européenne. Qui a posé la question ? Est-ce que la Grèce a rempli telle ou telle condition ? Elle a, quiconque est allé à Prague ou à Budapest sait que le niveau de vie là-bas est plus élevé que celui de la Grèce au moment où elle est entrée dans l'Union européenne. Personne n'a posé de question. Personne n'a posé de question. Est-ce qu'on cherche le plus petit commun dénominateur ? Regardez la politique dans les Balkans. Pendant toute la guerre dans l'ex-Yougoslavie, la Grèce a fait de l'obstruction à la politique européenne. Alors, on fait un procès d'intention à des futurs membres Hein, on se demande si, avec Havel et Geremek en Pologne, on cherche le plus petit commun dénominateur, alors ce sont de grands Européens. On ne s'est jamais posé la même question pour les Grecs et on ne s'est pas posé la question pour M. Schussel en Autriche. Alors je pense qu'on devrait, quand on parle de plus petit commun dénominateur, ne pas faire de procès d'intention à ceux qui ont lutté pour une certaine idée de l'Europe dans des conditions où l'Europe elle-même se désintéressait de cette question. Donc ça, c'est une réponse. Bon, vous avez parlé de la Confédération qui aurait pu être effectivement la réponse adéquate. Et là, François Mitterrand a à la fois eu une intuition brillante et une mise en œuvre désastreuse. Une intuition brillante parce qu'il a compris tout de suite après la chute du mur qu'il fallait réfléchir à la nouvelle architecture, qu'il fallait proposer quelque chose. Et il a donc lancé, dès 90, cette idée de la confédération, l'idée d'une confédération européenne. Alors imaginez pour des pays qui sortent du communisme en Europe centrale, on leur promet une confédération formidable. Et ça, on est tous pour, parce qu'ils voient dans l'idée de confédération l'idée d'un rapprochement politique avec l'Europe occidentale, avec l'Union européenne. Et c'est pour ça que Václav Havel a été le partenaire de François Mitterrand pour organiser les assises d'une confédération européenne. Or, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'élaboration de ce que pourrait être cette confédération européenne, on a découvert le fossé qui séparait les regards de l'Europe future ou de la future confédération vue de Paris ou vue de Prague, ou vue d'Europe occidentale ou vue d'Europe centrale. D'abord, la confédération, selon François Mitterrand, devait inclure l'Union soviétique. Pause. Imaginez à des pays qui sortent de la tutelle du pacte de Varsovie pendant un demi-siècle, ils viennent d'en sortir, on est en 80, la proposition leur dit on refait une grande confédération avec l'Union soviétique, avec un empire qui est en train d'éclater. L'Union soviétique, je rappelle, en 91, au moment des assises, l'Union soviétique est en train d'éclater, et tout le monde le sait. Et donc, proposer à ces pays, une confédération avec une Union soviétique qui est en train d'imploser, bon, pas exactement une proposition attrayante. Deuxièmement, ils disent, ben, si vous voulez inclure l'Union soviétique, on inclut les États-Unis. On veut qu'il y ait un contrepoids. Bon, ça, c'est logique. Deuxièmement, j'étais présent aux assises de la Confédération à Prague, à ce moment-là, la veille de l'ouverture des assises, en juin 1991, François Mitterrand fait une grande déclaration solennelle sur Radio France Internationale, donc à destination des pays concernés, non pas pour le public français, où il dit « La Confédération, voilà le projet, pour l'entrée dans l'Union européenne, il faudra, je cite, « des décennies et des décennies ». Alors, le message a été reçu 5/5. La Confédération, c'est un parking, c'est un moyen de mettre de côté des pays gêneurs au moment où nous préparons Maastricht, le renforcement, l'accélération de l'intégration européenne. Et le choix, à ce moment-là, pour les pays d'Europe centrale, était tout à fait clair, n'est-ce pas ? Ils ont compris tout de suite que la confédération qui était proposée, jusqu'à Vladivostok, non merci, et comme substitut à l'élargissement de l'Union européenne, deux fois non merci. Donc, il y avait absolument désaccord total sur la mise en œuvre d'une idée qui était brillante. Parce que si on avait proposé la confédération, non pas avec l'ex-Union soviétique, mais pour les pays de l'Europe du Centre-Est, en gros pour les membres du Conseil. Et si on avait dit que le Conseil de l'Europe était le fédérateur, puisque c'est l'institution garante des droits de l'homme, de la démocratie, etc., et que le but, ce n'était pas de les écarter de l'Union européenne, mais d'être une sorte de sas de décontamination, de phase de transition pour l'entrée dans l'Union européenne, avec un échéancier précis, là, ça aurait sans doute marché. L'idée qu'ils peuvent politiquement adhérer à l'Union européenne, même si économiquement, ils ne sont pas prêts. On aurait, à ce moment-là, je crois, désamorcé toute cette surenchère sur la question de l'élargissement et tous ces malentendus que j'évoquais à l'instant. Voilà. Merci.